Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. On a eu quelques semaines d'arrêt, mais on reprend maintenant le rythme de deux émissions par mois. C'est reparti. Je suis aujourd'hui avec Claude Amoger, qui est auteur de bande dessinée, mais surtout, je le reçois parce qu'il est éditeur. Il dirige une maison d'édition qui s'appelle Tanibi ou Tanibis. Ça, vous allez nous dire et nous dire un peu quel est ce nom, ce que ça veut dire. On se voit pour parler de votre maison d'édition, mais aussi de Quand souffle le vent, un magnifique album absolument bouleversant de Raymond Briggs que vous publiez, qui est sorti, je crois, il y a un mois et demi, deux mois. Enfin, c'est tout récent et il faut absolument le lire, se le procurer pour le lire. Donc, Claude, on commence par le commencement. Qu'est-ce que c'est cette maison d'édition Tanibis et comment elle a été créée? Quelle est son histoire?
Alors, c'est une maison d'édition qui a été créée en 2000 par trois personnes. Samuel Petit, qui menait vraiment ce projet à la base, Aurélien Maury, qui est également auteur, et moi-même. Et donc, le projet initial, c'était... en fait, on était tous étudiants avec un peu des velléités de faire de la bande dessinée, effectivement. Et c'était de l'autopublication au format fanzine, en fait. On avait un fanzine qui s'appelait « Rhinocéros contre éléphant ». On publiait nos propres travaux, mais pas que. Très vite, on a invité beaucoup d'autres gens et très vite, à part Aurélien, nous, on a dessiné de moins en moins et on s'est mué, on va dire, entre 5-6 ans en une maison d'édition avec un fonctionnement moins sur le modèle de l'autopublication et plus éditer des auteurs extérieurs à la structure. Sous forme d'album, distribué en librairie.
Alors, parce que quand on regarde votre catalogue, il y a une image, évidemment, qui ressort de Tanibis. Quelle est la ligne? Quel est le principe de publication?
Alors, nous, on ne veut pas forcément, par avance, définir une ligne précise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas nous qui la définissons, on la découvre plutôt petit à petit. Et après, on peut dire quand même qu'il y a une chose qui revient assez souvent, c'est une forme des récits qui ont un pied dans le réel et un pied dans l'irréel. On ne fait jamais de 100% fantastique, on ne fait pas de BD documentaire, on fait souvent des choses qui ont un pied dans chaque monde, si je puis dire, des choses un peu surréalistes, oniriques, etc. Et puis après, on essaye aussi de mettre en valeur des ouvrages qui ont des parties formelles très fortes, qui essaient d'expérimenter un peu sur les codes de la BD. Voilà, on essaye de montrer des choses un peu atypiques, on va dire.
C'est aussi, quand on regarde votre catalogue, c'est aussi quelque chose qui... Enfin, en tout cas, beaucoup d'albums regardent la société avec une forme d'anxiété, j'ai trouvé. Est-ce que c'est moi qui projette ou est-ce que c'est la réalité?
Je ne peux pas vous dire si c'est la réalité. Là, c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc, si peut-être, mais c'est votre interprétation. Je pense aussi qu'il y a des livres qui ne regardent pas spécialement la société. On a aussi pas mal de livres où les auteurs sont un peu des créateurs d'univers. Alors après, on peut trouver sombre ces univers. Il y a souvent quand même une forme d'humour qui peut être un humour un peu absurde, un peu surréaliste, qu'on peut trouver aussi, on peut trouver que c'est de l'humour noir aussi, mais voilà, ça c'est aussi au lecteur, aux lectrices de dire comment ils ressentent tout ça, quoi.
Vous publiez combien de livres par an ?
En fait, on publie entre 2 et 5 livres par an. En fonction de nos moyens et en fait du temps de travail que nécessite chaque livre, ça peut être extrêmement différent d'un titre à l'autre. Et donc depuis le début, on a dû publier, je ne sais pas, quelque chose comme 70 titres, quelque chose comme ça.
Et vous passez commande aux auteurs, ou c'est des auteurs qui vous apportent des projets, évidemment pas des projets tout faits, mais des projets qui vous proposent et vous les travaillez ensemble, vous les faites avancer?
Ben écoutez, ça peut être un peu des deux. Hein. Ça peut être des fois on reçoit des projets et ça nous semble prometteur et on est en capacité de les faire et on y va. Mais ça peut être aussi un auteur, une autrice qu'on a rencontré et une envie commune de faire quelque chose et on y va. Après, il y a un autre type de projet, donc là on va parler plus spécifiquement, c'est les projets patrimoniaux où là c'est plutôt nous qui allons, exhumer des projets qui ont déjà été publiés il y a longtemps, mais éventuellement dans d'autres pays. Et on va faire la démarche d'essayer de retrouver un public pour ces projets.
Vous pouvez, alors, on va parler de Quand souffle le vent après, qui rentre dans cette catégorie. Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête à nous citer pour ces projets patrimoniaux?
Oui, tout à fait. Alors, après, on peut parler de projets patrimoniaux, donc un peu anciens, mais dont les auteurs sont encore en activité, vous voyez. Mais le premier qu'on ait fait un petit peu dans cette série, c'est un livre qui s'appelle Flood, d'Eric Drucker, qui est en fait un livre qui a été publié en 92 aux États-Unis. Donc voilà, ça date un peu, qui est en fait un livre entièrement muet, réalisé pour la plupart de ses planches d'images pleines pages, sans texte, et réalisé entièrement à la carte à gratter. Donc voilà, je vous disais, on essaye de mettre en avant des parties pris très fort. Donc là, typiquement, on a quelque chose dont pas mal de gens peuvent nous dire en feuilletant, mais c'est pas de la bande dessinée parce qu'il n'y a pas de case, il n'y a pas de bulle, voilà. Et ça s'inspirait notamment des romans en gravure de Franz Masurel et d'autres de la première moitié du XXe siècle. Donc voilà, ça pour moi, je le mets dans cette catégorie de réédition un peu patrimoniale, même si l'auteur est encore en activité. Et puis on a fait 3 ans plus tard un livre qui est peut-être un des livres les plus connus de notre catalogue, qui est Le bus de Paul Kirchner, qui est une série d'histoires muettes, là aussi, très peu de textes, qui mettent en scène des sortes de gags étranges, qui mettent en scène un homme qui prend le bus, voilà, et qui fait l'auteur fait déraper ça vers l'étrange. Donc ça, c'était une série publiée dans les années 70-80, qu'on a rééditée en 2012.
Ouais, moi, c'est une série que j'aime beaucoup. On est dans un univers un peu flottant. À chaque fois qu'on passe d'une case à l'autre, on ne sait pas trop où on va arriver. On a l'impression de rentrer, de ressortir. Moi, c'est un ouvrage que j'aime énormément, Le bus. Autre chose de très particulier chez vous, c'est que vous publiez des livres en anglais et en français. Donc, évidemment, les mêmes livres traduits, en langue d'origine ou bien traduit en français. Vous êtes un peu les seuls à faire ça. C'est pour chercher un public étranger, c'est pour... Il y a une demande de ce genre de livre.
Ouais, alors après, c'est un peu comme je disais tout à l'heure que on n'a pas de plan établi à l'avance. Notre ligne éditoriale, on la découvre petit à petit. Bah, notre façon aussi de nous positionner sur le marché, c'est ouvert a priori. On n'avait jamais eu à l'origine l'intention de publier des livres en anglais. Ça s'est fait suivant les circonstances. Alors déjà, il y a un truc, c'est que on affectionne la forme muette et on a du coup dans notre catalogue plusieurs titres qui de base peuvent se vendre un petit peu internationalement. On sait que à Angoulême ou sur notre site ou en partenariat avec des libraires étrangers, on a des livres édités en français, mais il y a tellement peu de textes que voilà, ça peut s'exporter. Après, pourquoi est-ce qu'on a commencé un jour à publier en anglais? Bah, c'est à propos, c'est venu avec Le bus, justement. Parce que en fait, c'est un travail qu'on a fait avec l'auteur. On a fait un travail d'édition vraiment original parce qu'il fallait tout reprendre à zéro et on ne pouvait pas publier ça sous la forme sous laquelle ça avait été publié à l'époque dans les années 80. Il fallait tout recommencer. Et donc, on a fait ça avec l'auteur. Et l'œuvre n'était plus éditée aux États-Unis. en 2012. Elle était indisponible depuis longtemps. Et donc, on a, comme on produisait cette nouvelle édition, on essayait de voir avec l'auteur si on ne pouvait pas trouver un éditeur anglo-saxon. Et puis, on a failli, et puis finalement non. Et puis, comme tout était prêt, on s'est dit, allons-y, on va le faire nous-mêmes, et puis on verra comment on peut se débrouiller pour le diffuser. Et comme ça a plutôt bien marché, et qu'on a une relation de confiance avec Paul Kirchner, on s'est dit, pourquoi ne pas continuer, comme on a publié d'autres livres de Paul Kirchner, pourquoi ne pas continuer à faire des versions, des doubles versions du coup de ces livres. Et puis on a effectivement tenté avec d'autres auteurs.
Ouais. Alors, vous affectionnez les livres muets, et là on va parler d'un livre qui n'est absolument pas.
Effectivement.
Qui est même... Alors, on ne peut pas dire qu'il soit bavard d'ailleurs, parce que ça serait un peu le... Comment dire? Ça serait péjoratif. Ça serait pas du tout le mot. C'est un livre qui est très écrit. Il y a beaucoup de bulles, beaucoup de textes. Il y a aussi beaucoup d'images. On va parler de ce découpage très particulier. Mais c'est Quand souffle le vent, c'est un livre de Raymond Briggs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui est Raymond Briggs? Parce que moi, je le connaissais comme un auteur pour livres, de livres pour enfants plutôt, jeunesse, avec l'histoire du bonhomme de neige. Et quand on lit Le vent souffle, on s'aperçoit que son talent est beaucoup plus... pas riche, mais en tout cas varié que la littérature enfantine. Qui est ce personnage?
Alors, Raymond Briggs, il est né dans les années 30, 1931, je crois. Et donc, il est issu d'une famille plutôt 1934, excusez-moi, une famille plutôt populaire, une mère femme de chambre et un père laitier. Ça a son importance parce qu'il parle beaucoup de ses parents dans ses livres. Et donc, il a fait les beaux-arts parce qu'il a toujours été passionné de dessin, d'illustration. Voilà, il a toujours aimé dessiner. Et dans un premier temps, il se destinait plutôt à la grande peinture, quoi, la peinture académique. Et puis à la fin de ses études, il s'est trouvé que ça pouvait être compliqué de gagner sa vie comme ça, et que par contre, il y avait un débouché dans l'illustration. Donc à la fois un peu dans la publicité, mais aussi beaucoup dans le livre pour enfants. Et voilà, il y est allé, il s'est dit pourquoi pas, allons-y. Et en fait, il est quand même très très connu effectivement comme auteur de livres pour enfants, et notamment pour, je dirais, une dizaine de titres. Vous avez cité Le Bonhomme de Neige, il y a Sacré Père Noël, il y en a un certain nombre, qu'il a fait, on va dire, à partir des années 70. Mais il faut savoir qu'avant ça, il a fait des dizaines et des dizaines d'ouvrages en tant qu'illustrateur, et qu'il a une œuvre vraiment énorme qui est très méconnue en France. En Angleterre, il est très connu, mais pour une infime partie de son œuvre, en fait.
Oui, parce que j'ai parlé de ça avec un ami anglais qui... Je lui ai parlé de ce livre, de Raymond Briggs, et il m'a dit, mais en Angleterre, tout le monde connaît Raymond Briggs, parce qu'à chaque Noël, ou quasiment à chaque Noël, tu passe à la télé un dessin animé qui est inspiré des dessins de Raymond Briggs. Et il dit donc que chaque enfant anglais a déjà vu dans sa vie des images de Raymond Briggs à la télé et dans les couvertures de livres et dans les comptines et dans les crèches. Voilà, c'est quelqu'un de très important dans la culture visuelle des Anglais.
Oui, tout à fait, il est omniprésent. Donc par déjà ses albums qui, je pense, on était obligé de tomber dessus à la bibliothèque quand on était petit, entre les années 70 et même aujourd'hui. Les adaptations films d'animation, il y a l'adaptation du Bonhomme de Neige, mais je crois qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a une adaptation de Quand souffle le vent, pas très jeunesse pour le coup. Il y a Sacré Père Noël, c'était effectivement, c'est un peu une institution. Et effectivement, ce qui est assez marrant, c'est que c'était pas quelqu'un qu'on pouvait trop enfermer dans une case. Et déjà, petit à petit, en fait, à la base, il faisait plutôt des albums illustrés. Mais déjà, il s'est mis assez vite à écrire ses propres textes parce qu'il trouvait que des fois, on lui donnait à illustrer des trucs. Bon, c'était pas terrible, il pouvait faire mieux lui-même. Et puis aussi, dans les années 70, ça, je trouve ça vachement intéressant, il se sentait à l'étroit sur le format, vous savez, une illustration, un texte en légende. Et il s'est dit, non, mais moi, j'ai trop de choses à raconter, je vais faire un peu autrement. Et il s'est mis à utiliser la forme BD pour ses albums jeunesse. Et le premier album qui utilise cette forme, c'est Sacré Père Noël. C'est vraiment une BD et non pas un album illustré. Et c'est aussi son premier gros succès, je crois, même s'il était déjà connu à l'époque. Et il se laissait pas réduire à une forme bien précise. Et c'est un petit peu la même chose aussi pour le public auquel il se destine. Il est connu comme un auteur de livres pour enfants, mais en fait, il disait quelque chose comme, là, il y a une citation dans la postface, les livres ne sont pas des missiles, ils ne visent personne, donc il ne voulait pas avoir un public précis, enfantin, adulte, d'où le fait qu'il va passer de choses très enfantines à ce récit terrible qui est Quand souffle le vent, qui peut peut-être traumatiser un enfant, je sais pas. Mais voilà, lui ne voulait pas être cantonné à un public précis.
Donc effectivement, Quand souffle le vent, c'est... Bon, après, il y a des jeunes, des enfants, non, parce que c'est compliqué, mais on peut lire ça à partir de je dirais, 14 ans, quoi. C'est très accessible. C'est une BD étonnante. Moi, je ne la connaissais pas, cette bande dessinée, mais je pense qu'il y a très peu de Français qui la connaissaient. C'est une BD assez étrange parce qu'on a l'impression que on remonte dans le temps quand on l'ouvre. C'est une BD qui sort de la guerre froide. C'est une BD qui est parue en 82. C'est vraiment une BD de la guerre froide. Moi, je n'en connaissais pas. C'est pas des super-héros. C'est pas des gens comme ça qui vont s'attaquer à l'arme nucléaire, qui vont sauver le monde. C'est l'histoire d'un couple de personnes âgées. On pense qu'ils sont âgés, en tout cas, ils ont l'air. Et il va arriver un drame, la guerre atomique va se déclencher. Comment vous avez découvert cet album et qu'est-ce qui vous a conduit à l'éditer et à si bien l'éditer en plus?
Merci. Alors, en fait, moi, j'ai découvert Raymond Briggs par cet album. Ça fait longtemps, je pense que c'était à la fin des années 2000. En fait, il faut savoir qu'il y a eu une édition française de cet album en 83. Donc en fait, bah là, je l'ai, bon, nos auditeurs ne verront pas, mais en fait, c'est les éditions Garnier, collection La Marelle, qui a sorti cet album. Alors, les éditions Garnier, ils ne sont pas du tout connus pour faire de la BD. Moi, je ne connais pas très bien, mais pour moi, Garnier, c'est des classiques de la littérature. Alors, je ne sais pas, en fait, j'ai du mal à savoir, je n'ai pas retrouvé d'article, je ne sais pas quelle a été la réception de ce livre, mais j'ai ouï dire par le traducteur qui avait un ami qui se rappelait l'avoir trouvé dans les bacs à sol dans les années 80. Donc ça veut dire que ce livre n'a pas eu forcément un très grand succès. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas trouvé de lecteur, parce que par la solde, des fois, il y a des livres qui trouvent énormément de lecteurs. Et du coup, moi, j'ai rencontré quand même pas mal de gens qui connaissaient Quand souffle le vent, soit par l'édition française, soit par l'adaptation en film d'animation qui était sorti et qui avait été un petit peu diffusé, je pense. Et à titre personnel, en fait, je l'ai trouvé dans un désherbage de bibliothèque. C'est-à-dire, vous savez, les livres qui sont retirés du circuit, mais bon, il était quand même resté plus de 20 ans apparemment dans les bacs de cette bibliothèque, et qui sont promis au pilon, et du coup, ils sont vendus à bas prix aux usagers de bibliothèque. Voilà. Donc après, c'est une œuvre qui m'avait beaucoup impressionné. Et je ne sais plus du tout si je m'étais dit que ça pouvait être un projet de réédition. Mais en tout cas, j'ai toujours gardé un œil sur le travail de Raymond Briggs. Alors, j'avoue que je ne connais pas toute son œuvre, mais j'ai lu d'autres choses de lui que je trouve très marquantes, notamment Ethel et Ernest, où il raconte l'histoire de ses parents. Et puis voilà, c'est vraiment un projet qu'on avait un peu dans les tiroirs et qu'on s'est décidé à faire assez récemment, tout compte fait.
Donc c'est l'histoire de deux personnes âgées. Si on connaît le nom du personnage masculin, c'est James. Je ne sais pas si on connaît le nom de la femme.
Oui, c'est Hilda.
Hilda, voilà. Parce qu'ils s'appellent tous les deux en permanence Monchou, Bichette. Enfin, il y a aussi une ambiance de très douce, très tendre entre ces deux personnages qui vivent dans une petite maison. Arrive l'annonce de la guerre nucléaire. Et là, on est plongé à la fois 40 ans en arrière, peut-être un peu plus 50 ans en arrière, parce qu'ils ont des consignes. On va en parler, c'est des consignes assez, assez marrantes, vu de nos jours. Sauf que récemment, là, en Suède, le gouvernement a déclaré à sa population qu'il fallait se préparer à la guerre et qu'ils allaient distribuer des consignes. En Allemagne, le gouvernement allemand a fait le recensement de tout ce qui pourrait être un abri. Donc cette bande dessinée, elle revient très fort dans l'actualité, j'ai trouvé.
Et malheureusement, c'est vrai que moi je vous ai dit aussi pourquoi, enfin je ne sais pas exactement pourquoi il sort chez nous maintenant. Ce qui est clair, c'est qu'on ne s'est pas dit c'est en train de revenir, c'est d'actualité. Mais je vois bien comment il y a d'autres éditeurs dans d'autres pays qui ont aussi réédité cette BD. En fait, moi, c'était, je me rappelle, tout bêtement, c'est à l'époque, l'année où Raymond Briggs est mort, en 2021, où je me suis dit, bah mince, on a ce projet depuis longtemps, on ne l'a toujours pas fait, malheureusement, il ne verra jamais notre projet de réédition, mais c'est là qu'on a décidé de le refaire.
Donc ces deux personnages, on découvre la guerre nucléaire, et là aussi, ils sont très touchants parce qu'ils sont très naïfs. Ils croient absolument ce que leur dit le gouvernement. Et il leur dit, pour vous protéger, il faut être sous une porte, être sous des coussins, être sous des livres. Et ils vont appliquer à la lettre, tant bien que mal. Voilà, toute la première partie de l'album, c'est comment se protéger d'une attaque nucléaire. D'abord, quand on ne sait pas ce que c'est, quand on n'a aucun moyen vraiment de se protéger. Et il y a tout un côté très touchant et très bouleversant, parce que nous, on sait ce qui va arriver, de ces deux personnages qui continuent leur vie alors que pèse au-dessus d'eux une énorme épée de Damoclès.
Je pense que ces personnages sont très, très bien incarnés. Les dialogues sont extrêmement bien écrits. On est au plus près d'eux, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on les suit vraiment en temps réel. C'est pour ça que vous avez dit non, le livre peut paraître bavard, mais pas vraiment parce que c'est péjoratif. Je crois qu'on peut dire quand même que le personnage de James est très bavard. Et oui. Puis surtout, voilà, on est vraiment embarqué avec eux. Et donc, il faut voir vraiment à quoi ressemble la BD. On a des toutes petites cases. Et en plus, ils sont eux-mêmes, au bout d'un moment, ils se mettent sous cette espèce d'abri ridicule, là, sous cette porte. Et on est comme enfermé avec eux, on partage leur intimité. C'est tellement bien fait qu'on ne peut que s'attacher à eux. Il y a une raison supplémentaire, c'est que j'ai mentionné les parents de Briggs. Il faut savoir que dans la BD, ils les appellent James et Hilda, mais on a aussi leur nom de famille, c'est les Bloggs. Il les appelle les Bloggs. Il avait déjà fait un livre avant d'ailleurs qu'il les faisait intervenir. Et en fait, il s'inspire très très fort de ses propres parents. C'est vraiment... Alors, c'est des caricatures des parents de Briggs, mais c'en est quand même très près. On peut le voir parce qu'il a raconté la vraie histoire de ses parents dans cet autre livre qui est Ethel et Ernest. Et leur façon d'être, leur naïveté, leur tendresse mutuelle, on sent vraiment que Briggs a essayé de retranscrire, de faire revivre en fait ses parents qui étaient décédés il y a peu. Et puis après, évidemment, il y a le décalage entre le caractère totalement ridicule des consignes gouvernementales, qui sont les vraies consignes gouvernementales données par, envoyées par le gouvernement dans les années 80. Donc c'était ce livret qui s'appelle Protect and Survive, qu'on peut trouver on peut le retrouver encore aujourd'hui et ils les suivent à la lettre et ça paraît totalement ridicule, mais eux, ils croient dur comme fer.
Oui, alors vous disiez qu'on est très proche d'eux. Le dispositif narratif est assez unique parce que les pages sont ultra découpées. J'ai compté sur certaines pages, on a 27, 28, voire même 30 cases. Donc beaucoup, beaucoup de pages, ce qui permet, comme vous disiez, de les suivre quasiment minute par minute. Ça pourrait être, à chaque minute, on a une case, à chaque, même des fois même 3-4 cases par minute, parce qu'il y a des petits dialogues. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'assez étonnant, plastiquement, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, et puis on commence à lire et on rentre dans leur histoire. L'autre chose, c'est que les deux personnages sont tout le temps dans les cases. Il n'y a pas d'autres vues qu'eux-mêmes. Bon, peut-être une ou deux à droite, à gauche, mais je pense pas d'ailleurs.
Alors, il y a effectivement, mais vous allez peut-être en parler, de temps en temps, il y a des doubles pages.
Oui, il y a des grandes images, oui.
Et dans ces grandes images, c'est les seules images où on quitte la maison, où on quitte James, et Hilda. Et ça commence toujours par « pendant ce temps ». Et ça peut être dans un océan lointain et on voit un énorme sous-marin atomique. Ça peut être « pendant ce temps sur Terre, au loin ». Et là, on voit des missiles. Et ces images sont terrifiantes et genre 60 fois plus grandes que les petites cases dans lesquelles James et Hilda sont enfermés.
Oui, elles sont à la fois très belles parce que la couleur, je pense que c'est du lavis, c'est vraiment magnifique. Et elles sont effectivement terrifiantes parce que là aussi, nous, on sait ce que c'est. Et on est confronté à la naïveté des deux petits personnages qui sont bien loin de ces machines de mort et qui vont essayer de survivre. Mais voilà, au bout d'un moment, on est obsédé par ces visages qui sont dans toutes les cases. Et chaque fois qu'on ouvre une page, c'est comme s'ils nous sautaient gentiment, avec tendresse. Hein. Ils nous sautaient aux yeux. C'est une sensation de lecture qui est assez troublante.
Oui, tout à fait. Et ça fait partie des choses, je vous disais, voilà, Briggs, faut voir aussi qu'il évoluait dans un monde éditorial beaucoup moins saturé que le nôtre. La bande dessinée pour adultes, entre guillemets, en Grande-Bretagne, c'est peu de livres, c'est un territoire encore très vierge. Et du coup, il y avait des choses à inventer et Briggs était, entre autres choses, quelqu'un qui savait créer des formes. Et là, donc, il a eu l'idée de ce découpage très particulier en voyant, en fait, une adaptation d'un de ses livres pour enfants qui avait été faite par un éditeur étranger. Je ne sais plus lequel, nickel livre, mais peu importe. En fait, ils avaient fait un tout petit format à partir d'un de ses livres, un livre qui faisait, je ne sais pas, 3 cm sur 6 cm, quelque chose comme ça. Et Briggs a vu ça, il s'est dit, mais c'est marrant, et ouais, ça donne un truc étrange, et ça reste très lisible. Et là, pour mon histoire, où je veux en former mes personnages, je vais faire des cases de cette taille-là. Et par contre, je vais demander à mon éditeur quel est le plus grand format de page il peut me faire, quel est le plus grand livre qu'il peut faire. Donc, c'est un format, du coup, nous, on aurait pu faire plus grand, mais à l'époque, les standards éditoriaux faisaient que c'était le plus grand. Et je vais mettre autant de cases que je peux mettre. Et c'est comme ça que c'est venu. Du coup, il y a une forme de, d'expérimentation. Briggs essayait des trucs, il ne se contentait pas de refaire ce qu'il savait déjà faire. Et puis aussi de contraintes éditoriales et même de hasard, parce que s'il n'était pas tombé sur cette édition étrangère, il n'aurait pas eu cette idée, peut-être.
Alors, le temps passe, hein, on s'est dit déjà beaucoup de choses et notre émission va bien. Normalement, il faut s'arrêter. Mais je peux dire que je suis rarement ému, presque aux larmes, par les bandes dessinées, mais celle-là, elle est plus on avance vers la fin, et plus le graphisme, plus les personnages vont aller vers le drame, parce que la bombe a explosé. mais il parvient vraiment à installer une émotion qui est exceptionnelle.
Oui, oui, bah moi-même, quand je travaillais sur le lettrage de ce livre, sur les dernières pages, je connaissais par cœur tout, mais il y a des moments où j'avais envie de pleurer. Alors que je connaissais, enfin voilà, je ne découvrais rien. C'est vraiment un livre d'une force incroyable.
Ouais, et tout ça se cache sous une apparence d'apparent petit moyen graphique ou narratif, et c'est d'une richesse, d'une intelligence et d'une finesse que j'ai rarement vu. Mais Claude, je vous remercie pour ce moment passé avec moi pour parler de Tanibi et de cet album, je répète, époustouflant, il n'y a pas d'autres mots. Quand le vent souffle, l'auteur c'est Raymond Briggs, ses éditions Tanibis, et c'est au prix de 17 €, et franchement c'est quasiment donné quoi. Donc il faut absolument se le procurer. En plus l'édition est très belle, comme tous vos livres d'ailleurs, la couverture, le papier, enfin, voilà, c'est une merveille d'édition. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain chef-d'œuvre.
Merci beaucoup Stéphane, je souligne juste qu'il y a une petite post-phase de post-gravette qui est concise, très dense et très intéressante, qui resitue un peu dans le contexte à la fois éditorial et politique ce chef-d'œuvre.
Oui, Paul Gravette, c'est un historien de la BD, c'est un critique voilà, et qui remet Raymond Briggs à sa place dans l'histoire de la bande dessinée anglaise. Et ben, merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.